Bonjour. Cette émission est la seconde que je consacre au traducteur de littérature yiddish, Jean Spector. Jean Spector, donc né en 1937 et qui nous a quittés l'été dernier et qui nous a laissé trois grandes traductions du yiddish. La première que j'ai évoquée dans ma précédente émission, le roman de Joshua Perle, « Juif ordinaire »,« Yidden Fenagansioe », roman paru en 1930-31 en feuilleton, puis édité, puis traduit en russe, et après un oubli, en tout cas tombé aux oubliettes pendant plus de 30 ans, il est enfin édité en hébreu en 1992, et encore 30 autres années, et nous le voyons arriver enfin en France, aux éditions des Classiques Garnier. Aujourd'hui, je voudrais évoquer le second roman que Jean Spector a traduit du yiddish. Cette fois-ci, il s'attaque à un grand nom, Sholom Aleichem. Sholom Aleichem, c'est évidemment l'écrivain un des écrivains par excellence, en tout cas le classique par excellence de la littérature yiddish. La traduction des œuvres de Sholom Aleichem commence en France au début des années 90, un petit peu moins d'un siècle tout de même après le début de la carrière littéraire de cet auteur, né en 1859 et décédé en 1916 à New York. Sholom Aleichem, né Sholom Rabinovitch, est donc né en Ukraine en 1859. Jacques Mandelbaum, Nadia Dohan-Rothschild et quelques autres traduisent, dans les années 90, les cycles de nouvelles des contes ferroviaires et des gens de Kasrilevke, ou bien encore les lettres de Menachem Mendel et de sa femme Shaina Scheindel, retissant ainsi le fil de la transmission d'une œuvre qui a beaucoup souffert d'une vision folkloriste et passéiste, illustré par exemple par la mise en scène très hollywoodienne de « Un violon sur le toit » qui n'est en aucun cas le titre du roman de Sholom Aleichem puisque celui-ci s'intitule « Tavier le laitier » et qu'il ne s'agit même pas à proprement parler d'un roman. Depuis les années 2000, ce sont de véritables bijoux de la forme brève, des chefs-d'œuvre, de cocasserie, de virtuosité langagière, comme le dit si bien Carole Tchajenitzer-Matoron, qui nous parviennent régulièrement en français sous la plume des traductrices Nadia Dehan-Rothschild et Evelyn Grumberg, en titre « Un conseil avisé »,« Gittel pour Ishkevitch et autres héros dépités »,« Les mille et une nuits de Krochnik »,« Des volailles et des hommes », tout cela aux éditions de l'Antilope, mais également une série de nouvelles sur les fêtes, le temps des fêtes, j'espère ne pas me tromper dans le titre, édité chez Hermann et traduit par nos amies strasbourgeoises Doris Engel et Astrid Ruff. Ce sont autant de nouvelles, autant de pur régal de lecture et d'éblouissantes réussites de traduction. Le pseudonyme adopté par cet auteur trilingue, qui était Sholom Aleichem, trilingue, je veux dire yiddish, russe, hébreu, fin connaisseur des textes sacrés et de la littérature hébraïque, mais qui utilise couramment le russe dans sa vie quotidienne avant de promouvoir ce qu'on appelait le jargon, c'est-à-dire le yiddish, à la suite de Mendel et Moichel Sforim, ou bien Abramovitch, autre classique usant d'un pseudonyme, et d'en faire une langue éminemment littéraire, est à l'image de la construction délibérée de son statut d'écrivain, la paix soit avec vous, Sholom Aleichem, la formule traditionnelle qui équivaut en fait à une salutation tout à fait coutumière et familière de la vie du Shtetl. En gros, comment ça va? C'est-à-dire qu'à l'image de Charlot, chez Chaplin, comme l'écrit encore une fois Carole Tchajenitzer, ou de Mendel et Moichel Sforim, le vendeur de livres pieux, parce que telle est la traduction du nom de cet auteur, chez Abramovitch, Sholom Aleichem devient lui-même un personnage littéraire, un mythe consacré du vivant de son auteur, un narrateur, ou bien un interlocuteur même, d'un grand nombre de récits comiques, de dialogues carnavalesques, de cycles narratifs, poursuivis, enrichis tout au long des années, comme le précédemment cité Thévier le laitier, ou Menachem Mendel, le fabulateur, peut-être un des sens dérivés du fameux mot yiddish Luftmensch, hein, cet homme de l'air, cet homme qui vit de non pas d'amour et d'eau fraîche, mais surtout de l'air qu'il respire. Et ce dernier, ce Menachem Mendel, comme son créateur, est victime d'opérations boursières absolument désastreuses. Sholom Aleichem, lui, a perdu intégralement l'énorme fortune de son beau-père. Mais il fait contre mauvaise fortune bon cœur grâce aux compensations de sa langue fertile et de son imagination sans cesse en mouvement. Le roman « Étoile vagabonde » dans, je ne le répéterai jamais assez, la merveilleuse traduction de Jean Spector, qui use sans doute d'un registre plus populaire et souvent même argotique que les traductions que j'ai mentionné, s'inscrit dans un projet différent de celui des nouvelles, des monologues, des comédies, qui, par l'usage généralisé du skaz, de ce récit parlé, renvoie à la création contemporaine en russe, chez Gogol, par exemple. Paru en feuilleton entre 1909 et 1911, dans un journal varsovien, lorsque Rabinovitch, donc vous aurez bien compris qu'il s'agit de Sholom Aleichem, est déjà gravement atteint par la tuberculose et il parcourt l'Europe de l'Est pour des tournées de conférences qui l'épuisent ou bien il va se soigner en Italie, en Suisse, en Allemagne, en compagnie de sa nombreuse famille. Et ce roman va parachever en fait le projet littéraire des débuts de sa carrière quand il avait mis en scène la vie d'artiste juif aux marges de la collectivité dans Stamp and You, qui est un musicien klezmer. Faut-il savoir que les musiciens klezmer étaient, non pas mis au banc, mais pas loin, et vivaient vraiment aux marges de la société du shtetl. Et un autre roman, Yoisele Salaviei, chantre ambulant. Donc ce milieu des musiciens juifs et de ces chantres, de ces chazanim, chazonim, avec leur argot spécifique et leurs errances picaresques. On retrouve cette même allure narrative vagabonde, mais ici, l'arrière-plan évoqué, bien qu'il soit encore lié au monde musical par la trajectoire du personnage féminin, Raisel, devenue la cantatrice Rosa Spivak, cet arrière-plan est centré plus largement sur les développements du théâtre yiddish à travers le roman d'apprentissage de Leibl, alias Léo Rafalesco. L'étoile montante de la scène yiddish est probablement aussi ultérieurement américaine. Le roman s'arrête d'ailleurs avant de décrire l'étape suivante qui a de fait contribué à fonder rien moins que Hollywood. Entre-temps, Sholom Aleichem, Sholom Rabinovitch, pardon, a fui les pogroms russes, a séjourné à Londres et en Amérique, deux centres importants de la constitution du théâtre yiddish, après sa naissance moderne en Bessarabie, sous l'égide de Abraham Avrom Goldfaden. Ce dernier a installé les premières troupes itinérantes en Roumanie, également évoquées par le roman, dont le shtetl, lieu de naissance des deux héros, se situe près de la frontière roumaine. C'est aussi ce qu'indique clairement le nom de scène du jeune Leibl, Rafalesco, sur le modèle du nom du célèbre acteur Zsigmond Mogulesko, grande star de la comédie yiddish à l'égard de Jacob Adler, Boris Tomaszewski ou David Kessler, tous adulés par le public immigrant du Lower East Side à New York. L'enracinement réaliste de l'écriture romanesque, revendiqué par l'écrivain Sholom Aleichem, à qui son mentor Mendele Moechesforim avait déconseillé l'exercice du roman comme contraire à son talent naturel, se mesure d'abord à cette évocation très fouillée des années d'apprentissage du théâtre juif à travers l'itinéraire de ce que Carol Tschajenitzer nomme un Wilhelm Meister des Bourgades, allusion au célèbre roman d'apprentissage de Goethe. Cet estrangement géographique, c'est-à-dire ce dépaysement, on pourrait peut-être traduire, qui dépeint un shtetl légèrement décalé par rapport aux énoncés typiques caractéristiques de la zone de résidence, donc zone où les Juifs se trouvaient confinés aux marges de l'Empire, essentiellement en Ukraine d'ailleurs, dans laquelle se situent généralement les récits comiques, Kasri Levke, la bourgade archétypale, au lieu de la création mythologique de son auteur. Donc cette espèce de dépaysement va de pair avec la notion d'éclatement du shtetl, de sa dispersion moderne, du bouleversement picaresque des modes de vie traditionnels. L'évocation du milieu interlope du théâtre yiddish à ses débuts passe par une accumulation de péripéties plus ou moins vraisemblables qui, tout en maintenant un substrat réaliste, rappellent constamment le roman populaire ou le roman feuilleton, avec les scènes mouvementées et des aventures en cascade. Arrivée du théâtre ambulant dans la bourgade juive, qui vient enchanter, au sens propre du terme, la vie quotidienne et provoque la fuite ou l'enlèvement rocambolesque des deux jeunes héros, ces étoiles vagabondes qui, comme dans la légende, s'attirent invinciblement sans jamais se rejoindre, les Blanchen de Stern. On trouve également des voyages initiatiques qui éprouvent la vocation artistique à l'aune du desserrement des restrictions de la vie traditionnelle. L'accomplissement de l'art, payé au prix fort de la solitude, des trahisons amoureuses, de la culpabilité induite par le processus de rupture. Condensé par la fantaisie carnavalesque et le foisonnement du roman comique, c'est en fait un douloureux apprentissage de la modernité et de l'acquisition de l'individualité émancipée au crible de l'expérience personnelle qui est ici symbolisée de façon transposée à travers la verve romanesque. À la suite du processus d'immigration outre-Atlantique, la description se fait de plus en plus satirique à mesure que la perte de l'innocence accompagne le dévoiement de l'idéalisme initial, traduisant ainsi la dégradation des valeurs par les compromissions de l'art naïf de l'origine au profit de la marchandisation des talents, annonçant déjà le futur star system hollywoodien et dénonçant la médiocrité du répertoire et des performances artistiques. Sholom Aleichem était lui-même peu satisfait de ses deux séjours américains. La Première Guerre mondiale le contraint à revenir y passer les dernières années de sa vie et il n'a de cesse de montrer l'envers du rêve émigrant et il pastiche avec beaucoup d'ironie le melting pot linguistique et l'abâtardissement de la langue et des coutumes du vieux monde. L'errance des destins des personnages réfracte les grands mouvements qui vont désamarrer la vie traditionnelle et vont rompre les attaches avec l'origine. Car les étoiles que les jeunes amoureux du shtetl invoquent comme puissance tutélaire sont aussi les âmes qui vont perdre leur pureté enfantine au contact du succès et de la vie sans règles des artistes. Bien sûr, le message est ambigu à travers la formule initiatique au cœur du récit. Les étoiles ne tombent pas, elles vagabondent. C'est un exil intérieur auquel on assiste et qui semble être nécessaire au mûrissement de l'individualité de l'artiste. Et la fin du roman, ouverte et comprenant en filigrane d'autres alternatives, rejoue le mélancolique message de Goethe d'une initiation au renoncement, ou la désillusion nécessaire des grandes espérances à la Dickens, l'un des modèles littéraires de Sholom Aleichem dans sa délicate peinture de l'enfance, et dont le nom de Estella, étoile, héroïne des grandes espérances, des Great Expectations, pourrait être l'un des points de passage. Toujours est-il que, dans le contexte stratifié de la société du Shtetl, jamais le fils du riche propriétaire n'aurait pu épouser la pauvre fille du chantre. Bien plus encore, jamais le talent de chanteuse de celle-ci n'aurait pu se développer dans le cadre des interdits traditionnels. De même, le discrédit jeté par le monde religieux sur le théâtre, hormis les réjouissances autorisées lors de la fête de Pourim, qui ont donné naissance au prototype du théâtre juif, Pourim Spiel, dont nous avons un aperçu à travers le journal de Kafka lors de sa rencontre avec la troupe de Lévi, condamne obligatoirement l'apprenti comédien à la marginalité et au déclassement. La troupe, évoquée dans le roman, avec le personnage de Hotzmach, une sorte de Figaro juif, propose Carole Tschagenitzer, dont le nom est directement emprunté à la pièce de Goldfaden intitulée La sorcière, rappelle par bien des traits celle qui a fasciné Kafka exactement à la même époque, en 1911. La chronologie interne du roman, par certains indices, comme les noms de souverains ou une référence à Elektra de Strauss, opéra de 1909, vont dans le sens de cette coïncidence jusqu'au personnage de Madame Tcherniak, dite Braindale la Cosaque, ou celui de la prima donna Henrietta, autrefois Jentl Schwarz, qui pourrait nous faire penser à ces actrices de seconde zone dont Kafka semble s'éprendre à chaque fois qu'il les voit sur scène. Le théâtre est ainsi un microcosme de fascination et de libération. Un miroir du destin de l'artiste yiddish, contraint de trouver sa voix, sa langue, son inspiration au milieu des conventions d'une tradition ampoulée et sans assises réalistes. Leibl devient un grand acteur précisément parce que son jeu est naturel, dicté par la mesure et l'équilibre individuel. Toutefois, l'outrance et la parodie, l'exagération, la truculence verbale associée au corps collectif en restent le terreau, de même que le passé mythologique de l'enfance et la complexité des affects modernes que le jeu permet de sublimer. Regarde, les étoiles tombent, s'exclame Reisel d'une voix tremblante, et son cœur bat très fort. Leibl se met à rire. L'histoire des étoiles est la suivante. Chaque étoile est l'âme d'une personne. Là où va l'âme, là va aussi la personne. C'est pourquoi il nous semble que les étoiles tombent. Mais les étoiles ne tombent pas. Les étoiles vagabondent. Cet échange à Holeneshti, en Bessarabie, entre les deux adolescents, Leibl, le fils de l'homme le plus riche, du Steitl et Reisel, la fille unique du pauvre chantre, est à l'image de ce roman dont nous faisons la chronique, Étoile vagabonde de Sholom Aleichem, paru en yiddish sous forme de feuilleton, dans un journal polonais entre 1909 et 1911, et traduit pour la première fois en français en 2020 par Jean Spector, l'ami à qui je rends hommage aujourd'hui. Jean Spector a d'ailleurs reçu, par la Société des gens de lettres, le prix Découverte de la traduction en 2020 pour ce roman. Ce roman qui exalte la vigueur, la centralité de la musique et du théâtre comme porteur de rêves et d'espoir dans un monde aujourd'hui disparu, celui de la vie juive aux confins de l'Europe du début du XXe siècle. Et les mots de Sholom Aleichem vibrent comme une invitation à la magie du voyage et résonnent toujours avec pertinence. À travers la richesse d'une langue à la fois poétique et truculente, la virtuosité de la narration, le grouillement de personnages hauts en couleur, c'est le sens de l'art dans une société en mutation qui se dessine. Dans ce récit, foisonnant, rythmé par l'intensité dramatique des rebondissements, le recours à des formes d'écriture plurielles, tout commence par l'arrivée d'un misérable ensemble de comédiens et à la découverte du théâtre yiddish dans cette pauvre bourgade ancrée dans la tradition et la pratique de la religion. Sholom Aleichem détaille magnifiquement le shtetl et il trace à grands traits, parfois même caricaturaux, les silhouettes de ses habitants. Il rend sensible l'émoi suscité par tout événement qui vient troubler le déroulement ritualisé des jours, semaines, années, et dévoile le regard porté sur les Olibrius qui se disent artistes. Ainsi, le personnage court sur pattes et glabre du crâne à la pointe du menton. Dans un tel contexte, la fuite de Leibl qui se veut acteur et de Reisel à la voix d'or, chacun de son côté avec des membres rivaux de la troupe théâtrale, retentit comme une malédiction et le prélude à d'autres drames intimes et collectifs. Au monde du Shtetl vient donc se substituer celui des artistes itinérants. Après bien des aventures, de Lemberg à Tchernowitz, de Vienne à Londres, à pied, en charrette, en voiture, en calèche, sur le pont d'un bateau ou dans des cabines de première classe, tout va se terminer dans la ville de New York, avec ses nombreux théâtres de langue yiddish abrités dans le Lower East Side. Raccroché à l'histoire d'amour contrariée entre Leibl et Reisel, qui imagine leur retrouvaille, c'est la passion de l'art qui s'impose, comme fil directeur du récit, qui habite tous les héros, légitime leur hardiesse et disculpe, quelque part, leur compromis, mensonge ou trahison. Une fresque étourdissante jaillit de cette diversité d'ambitions. Et parce qu'il ne porte pas de jugement sur les personnages qu'il met en scène, Sholom Aleichem donne vie avec force et tendresse à toutes les contradictions qui les agitent. Il ne les fait pas choisir entre le respect des croyances dans lesquelles ils ont été élevés et la nécessaire adaptation au monde naissant dans lequel ils évoluent. Par exemple, devenue veuve, Laye accepte de rejoindre à New York sa fille, Reisel, désormais la célèbre cantatrice Rosa Spivak, mais elle exige d'avoir des chandeliers en laiton, car elle n'a jamais dit autrement la bénédiction des bougies. En puisant dans cette pluralité d'allégeances, Sholom Aleichem excelle à rendre sensible ce qui donne son souffle et sa raison d'être au théâtre yiddish, à la musique, à l'opéra. Il rend hommage à ces êtres ordinaires, vivant souvent dans des conditions misérables, ignorées, ignorant aussi de leurs dons, et qui, par l'effet du hasard ou de leur obstination, à force de travail et de volonté, sortent de l'anonymat et révèlent leur talent. Il en est ainsi du violoniste désormais adulé, Grisha Stelmach, dont le père a commencé par mendier pour obtenir quelques sous en sa faveur, car c'est de l'or. Ou bien le chantre de Lomze, qui végétait dans un sous-sol pourri avec sa ribambelle d'enfant, avant d'être reconnu pour la beauté de sa voix. Sholom Aleichem sait donner de la noblesse à un public hétéroclite, parfois indiscipliné, souvent peu éduqué, mais toujours enthousiaste, pour qui une représentation dans une cour aménagée à Holon Eshti, dans un minuscule Pavilion Theatre de Whitechapel ou au Nickel Theatre de New York, est source de joie, de mystère, d'excitation, de plaisir. Qu'il s'agisse de chansons reprises à l'unisson, comme Le Maître de l'Univers ou Je suis un petit chosside, d'opérettes, de morceaux de violon, de pièces de théâtre légendaires comme Uriel Acosta avec Leibel devenu Léo Raffalesco dans le rôle principal, applaudissements, sifflements, commentaires fusent bruyamment. Une forme inédite de solidarité se noue à travers ce partage d'émotions, cet afflux inattendu de pensées indicibles, cette soudaine intimité avec le beau et le noble, le drôle et le tragique. En émerge un appel enivrant vers un quotidien à dépasser, un ailleurs à inventer, une liberté à conquérir. L'unique rencontre des deux étoiles vagabondes lors de leur trajectoire fuyante se déroule au zoo, parmi les bêtes fauves, à un moment où l'enchevêtrement des intrigues, des pulsions, des destins tend à devenir inextricable et nécessite la coupure. Le suspens poétique, le choix éthique et artistique. Entre-temps, plus de 600 pages sont passées comme un rêve, un bain de pur langage, une épopée tragicomique entrecoupée de délires verbaux, de portraits excessifs, de procédés d'interruption narrative ou de connivence avec le lecteur, où se devine en transparence la jouissance du conteur, jetant un regard éloigné sur la longue durée des formes et leur devenir imprévisible, avec la nostalgie savante de celui qui se sait presque arrivé au terme de son errance, selon les belles formules de Carole Tschagenetzer. Et je cite pour terminer ces quelques lignes des Étoiles vagabondes de Sholom Aleichem dans la très belle, très émouvante traduction de Jean Spector, à qui ces deux émissions sont consacrées. Les étoiles vagabondes se sont rencontrées, mais bien tard, trop tard. Il semble que le bonheur ne soit pas de ce monde. Seul existe l'attrait du bonheur. Mais le bonheur lui-même n'est qu'un rêve, une chimère. L'amour non plus n'existe pas, mais sa représentation existe. Un idéal que nous construisons nous-mêmes avec notre imagination.